Mercredi dernier, nous avions ici une réunion de préparation au mariage. Elle se tient tous les mois, le deuxième mercredi du mois, donc la troisième depuis septembre. Et nous avons invité les fiancés à travailler sur leur projet de vie. La chose est importante quand les temps sont bouleversés. La fragilité du monde que Jésus rappelle dans l'Évangile. La fragilité du monde ne saurait être le prétexte d'un désengagement personnel. Nous aurions pu leur demander quelle est votre idée du bonheur, quelle est votre vision, votre espérance du bonheur. Le terme projet de vie est peut-être plus concret, nous leur avons proposé différents aspects. Nous avions parlé la fois précédente de leur relation à leur famille. Différents aspects, bien sûr, les enfants, combien d'enfants, le travail, la place du travail, l'argent, les amis, et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de tout tracer, tout prévoir. De toute façon, les choses ne se passent jamais comme on le prévoit. Mais l'objectif, c'est d'abord qu'ils soient clairs sur leurs attentes. Leurs attentes mutuelles et leurs attentes personnelles, cela suppose qu'ils réfléchissent également sur leur propre projet de vie. Et surtout qu'ensemble, ils n'aient pas peur, c'est ce que nous leur avons demandé, de voir grand. On leur dit, vous venez vous marier devant Dieu. C'est grand, il faut que vous voyez grand. C'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui dans l'Église. C'est de l'ambition. Là, les disciples s'extasient, s'émerveillent devant la grandeur du temple. Mais tout au long de l'Évangile, on voit Jésus confronté à l'ambition de ses disciples. Ils passent leur temps à se demander qui est le plus grand d'entre eux. C'est tout à fait remarquable et étonnant pour des hommes qui viennent de milieux modestes, aux professions pas forcément reluisantes. Mais c'est parce qu'ils avaient cette énergie, ce sens de la grandeur, cette ambition proprement dite, que Jésus les appelait, et non pas en dépit de cela. C'est nécessaire d'avoir de l'ambition pour le salut, pour le bonheur. C'est ce qui constitue notre espérance. Dieu ne prend pas des nouilles pour faire des saints. Pour devenir des saints, il faut d'abord être des hommes et des femmes assumés, accomplis. Et un projet de vie est une nécessité qui ne revient pas. Ce n'est pas une question de génération, d'entrée dans la vie. Quel que soit notre âge. Dimanche dernier, nous entendions en première lecture un passage du deuxième livre des martyrs, où il y avait le martyr de sept fils et de leur mère. Et qui fait suite, le chapitre précédent, le chapitre 6 du deuxième livre des martyrs, c'est le martyr d'un vieillard, Éléazar, à qui on demandait... Ils avaient quand même un peu de scrupule à martyriser ce vieil homme. Ils disaient, t'as qu'à faire semblant. Pas semblant de mourir, mais semblant de manger des choses interdites. Tu fais semblant d'abjurer, puis on fera comme si. Et il répondait, c'est pas à mon âge que je vais commencer à faire semblant. C'est pas à mon âge que je vais commencer à donner le mauvais exemple. S'il y a bien quelque chose qui grandit avec l'âge, une responsabilité qui grandit avec l'âge, c'est de donner l'exemple. Je suis le premier à m'indigner de la façon dont les anciens sont traités dans notre société. Mais il faut quand même reconnaître la part de responsabilité de nombre d'entre eux dans l'exemple qui est donné, en particulier dans la pratique religieuse de cette génération, de ces générations qui ont emmené leurs enfants à la messe quand ils étaient petits et qui ont arrêté en même temps qu'eux. Que des adolescents, que des jeunes aient du mal à aller à la messe ou s'éloignent de l'église provisoirement. C'est normal dans la recherche de leur identité, la compréhension de leur autonomie. Mais que leurs parents les imitent. Il y a un phénomène comparable à celui des entreprises aujourd'hui qui s'étonnent de ce qu'elles appellent, ce qu'elles considèrent comme l'infidélité de leurs salariés. Alors que depuis des décennies, ça fait 30, 40, 50 ans, elles se débarrassent de leurs vieux serviteurs allègrement. C'est une leçon qui vaut pour l'Église. C'est un avertissement permanent à ne pas confondre réforme et reniement. À demeurer avant tout fidèle au dépôt de la foi. Prière d'ouverture le dit de façon magnifique. Donne-nous de trouver notre joie dans notre fidélité. Parmi ces fiancés, nombreux d'entre eux, même beaucoup d'entre eux, ont des parents qui ont divorcé. Manifestement, ça ne les dissuade pas. Ils ne cherchent pas à réussir là où leurs parents ont échoué. Ils ont cette liberté. Il y a dans l'Ancien Testament la reprise d'un proverbe. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. C'est dans le livre d'Ézéchiel, c'est un tournant d'ailleurs de la révélation qui dit « Non, ce proverbe ne vaut rien. Ce n'est pas héréditaire. Ni la fidélité ni l'infidélité ne sont héréditaires. » Alors le mariage, c'est un projet de vie communautaire. Une communauté de vie et d'amour à l'intérieur de cette communauté qui est l'Église. Nous ne croyons pas qu'il soit possible de s'épanouir en dehors d'une communauté. Et l'Église ne consacre que deux états de vie, le mariage, ne cessant de rappeler la grandeur du mariage, le mariage et la vie consacrée, qu'elle soit religieuse ou assimilée. On dit, mais, et les personnes seules? C'est justement le sujet de cette journée mondiale des pauvres, que nous puissions élargir notre regard, non pas à toutes les personnes seules, aux solitudes douloureuses, à ceux qui en souffrent. Et quand nous parlons de pauvres, ceux qui sont des pauvres souffrants, ceux qui n'ont pas de communauté, c'est ça la définition du pauvre. Celui qui est exclu de sa communauté, c'est pas un hasard si la moitié de ceux qui sont dans la misère en France sont des étrangers. La définition du pauvre, bien sûr, elle peut être économique, de moyens financiers, elle peut être aussi physique, de faiblesse, de difficulté, mais elle est avant tout évangélique et politique d'intégration sociale, de lien à une communauté. Le pauvre, il est sans défense parce qu'il est seul. Et une grande part de sa souffrance vient alors de l'indifférence de l'entourage, parfois de sa propre famille, de l'environnement ou de la société. La première église que Jésus a fondée, c'est la foule de pauvres et de malades qui le suivaient pour se faire guérir, mais pour l'écouter. Et il les guérissait, et il les nourrissait en leur parlant du royaume. Et avant de monter au ciel, il a institué l'Église qui nous réunit, que nous sommes, en demandant aux apôtres, vous connaissez la phrase, « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il y a une femme qui est venue me voir l'autre jour à l'entrée de la messe, elle me dit « Maintenant je viens chez vous parce que dans mon diocèse ils sont devenus intégristes. » Elle m'a expliqué, elle a dit, mais ils veulent plus baptiser des personnes qui sont dans une situation de vie désordonnée. L'ordre de Jésus est clair, baptisez-les. Baptisez-les pour qu'ils gardent les commandements, pour qu'ils apprennent à respecter les commandements. Pas s'ils respectent tous les commandements, à ce moment-là, c'est pas une récompense. Pour l'Église, les pauvres seront toujours ceux qui ne sont pas baptisés. C'est-à-dire, entendez, qui n'ont pas l'espérance, qui n'ont pas été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est donné par l'union au Christ. Au-delà des apparences, au-delà des belles pierres devant lesquelles les disciples s'extasiaient, mais au-delà, dit Jésus, et il nous prévient, au-delà des épreuves que nous aurons à subir en son nom. Au jour du mariage, avant l'échange des consentements, le célébrant s'assure de la validité de l'union, la liberté des époux, leur engagement à l'exclusivité, la fidélité, leur ouverture à la vie, et il pose cette question. Êtes-vous disposé à assumer votre mission de chrétien dans l'Église et le monde pour l'annonce de l'Évangile? Je vais traduire. Êtes-vous prêt à vous occuper des pauvres? C'est la question de notre baptême. Et elle est posée au jour du mariage parce que le mariage est un accomplissement du baptême. Êtes-vous prêt à vous occuper des pauvres? Quel est le service que vous voulez rendre aux pauvres dans la société? Quelle société n'est rien moins que la mission de salut de l'Église? s'il y a une conviction commune à tous ceux qui se mettent au service des pauvres, quelle que soit la définition, qu'il s'agisse des miséreux, des SDF, des malades, des souffrants, voire des ignorants, une conviction, c'est qu'il est interdit de le faire seul, à titre personnel, sous peine de se tromper, surtout de les tromper. Il n'y a qu'au sein d'un groupe, d'une équipe, d'une association, d'un mouvement, d'une communauté, qu'il est possible de servir les pauvres, car justement, ce dont il manque avant tout, c'est cette appartenance, cette reconnaissance communautaire. Et nous, chrétiens, nous savons que cet engagement social est un combat spirituel. Un combat spirituel contre le diable, dont les attaques extrêmement efficaces dans les temps que nous vivons, les attaques contre la famille, la patrie, la religion, ne visent qu'une seule chose, isoler les brebis du troupeau pour qu'elles soient mangées par les loups. Nous connaissons tous tant de personnes qui sont seules, apatrides, incroyantes. Il y en a un qui se réjouit, c'est le loup. Maintenant, sachant que ces trois lieux, ces trois instances de défense et de protection des pauvres que sont la famille, la patrie, au sens d'une tradition, d'une culture, d'une histoire, la famille, la patrie et la religion, ne sont pas de même valeur. Seule la troisième est vitale, seule la foi est vitale. Posez-vous la question, demandez-vous quelle place elles tiennent dans votre vision du bonheur. Ne craignez pas, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Nous avons la foi pour vaincre la fragilité du monde.